5 i...
Queda 10 minuts.
I entrareu en el següent ordre. Al fons anirà l'Àlex, després anirà la Marta, després el Jordi i finalment el Benoit.
El Benoit, el Benoit l'últim.
Doncs així, vale? Àlex, Marta, Jordi, Benoit. Àlex al fons, Marta, Jordi, el Benoit més cap a sortir. Així el tècnic sap on esteu.
Perfecte.
Vale? Doncs ja, podeu, ja sortirà el lloc. Vale? Doncs a punt? Estem a punt?
Sempre estem a punt.
Allez, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Un honneur.
Ara, 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 ara. Sí. Si no és igual, jo l'entenc.
Vale, no, no. Te volia explicar això.
Sí, sí, perfecte.
Vale? Que lligarà més bé després amb ells.
Vale, després, para que anem, quan anem tu i jo a l'Adam...
Jo aniré abans.
Ah, vale.
La Teresa te donarà un taxi.
I anem, la gent d'aquí anem amb el mateix taxi.
El taxi.
Okay. Perfecte. Bueno, nada de golpes bajos. Porta't bé.
No te metes con...
No facis dues hores, parla bé de mi, cabron. Vinga.
I que se
oiga. Hola, bona tarda. Doncs comencem a les xerrades del dimecres. Abans de res, us explicaré la darrera taula, la que tenim a via Júlia. Doncs no podrem comptar amb la presència de Carlo Di Filippi i bueno, hem buscat una persona que el substitueixi i bueno, esperem comptar amb ell per una altra jornada. L'any passat va venir a BC Negra Otto Penzler i quan li van preguntar aquella pregunta que és tan difícil de quina triaria la seva millor novel·la, va triar aquesta novel·la que parlem avui de James Cranmer, L'últim gran bes o L'últim gran petó o L'últim petó, depèn de com tinguem. Van tenir la sort també de que Enrique Deriz estava preparant una traducció amb la qual el llibre estaria a les llibreries. Malauradament no podem comptar avui entre nosaltres a l'Enrique Deriz, però que, bueno, que aquesta taula sigui també un record per ell. Doncs tenim aquesta taula que moderarà l'Aleix Martín, que a part de ser un gran amic de BC Negra, li vull agrair tot el que ha col·laborat i ha treballat i ha fet. Gran part de les coses bones d'aquest BC Negra són coses de l'Àlex, o sigui que m'agradaria un aplaudiment per ell.
Gràcies.
Li he dit que parlés bé de mi, però m'ha adelantat una mica, per si estava una miqueta... Bueno, a l'Àlex també tenim la Marta Bes, el Jordi Canal, i tenim el privilegi, més que res perquè no tenim tan sovint per casa nostra, de tenir la presència d'un mestre i d'una persona que gairebé ho sap tot de la novel·la negra, com és el senyor Benoit Tadí. Moltes gràcies per haver vingut. I res, gaudiu d'aquesta taula i sobretot llegiu aquesta barbaritat de novel·la que és l'últim gran petó. Gràcies.
Molt bé. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí a una hora molt de western, sí. Les 4 de la tarda, no està gens malament. És un plaer poder moderar una taula com aquesta, on parlarem d'una gran novel·la. Jo penso que una de les 10 grans novel·les nord-americanes del segle XX. I ho farem amb un autor que és James Crumbly, un autor que jo crec que està prou oblidat dins del cànon de la novel·la negra. Ara podem parlar una miqueta per què i podem intentar explicar qui va ser James Crumbly, la vida que va tenir una mica aquest autor. Crumbly és un autor que d'alguna manera ha estat reivindicat, deia el Carlos Zanon, que ha estat reivindicat per Otto Penzler l'any passat com la millor novel·la negra que ha llegit gairebé en tots els temps. No? Jo penso que això es podria fer extensiu a altres autors, a altres estudiosos. Aquí, per exemple, en aquesta contraportada diu que Claude Benoit parlava que era la millor novel·la negra de la generació dels 70. Jean-Claude Izzou, també, Denis Lehane, és a dir, alguna cosa succeeix darrere d'aquesta novel·la que la fa tan especial. No? A mi m'agradaria començar una mica aquest debat, segurament parlant una mica de Crumbly, de la vida de Crumbly. Crumbly no ha estat tot traduït a l'estat espanyol, es va traduir per primera vegada Etiqueta negra, Hooker, almenys en castellà, que es va publicar les seves experiències com a militar, l'experiència militar que va tenir Crumbly, Uno que marque el paso, era el títol, i després doncs, es va publicar Un caso equivocado. Després La cua de palla, en català, Seleccions de la cua de palla, als anys 90 va publicar 3 títols, gairebé seguits, més o menys gairebé tots l'any 1991, un és aquest, que és la novel·la que avui parlarem d'ella, L'últim petó autèntic, després hi havia, si no recordo malament, Un cas equivocat també, i L'os d'ensaire. Són els 3 títols, un protagonitzat per un detectiu que veurem ara, el Sugru, i els altres 2 pel seu altre detectiu, que era el Milo Dragovic, per tant el Milo. Per obrir una mica, qui va ser James Crumbly? Crumbly no va tenir una vida fàcil, és un autor que neix a Texas, ja tenia una mica pinta de cowboy, el Crumbly, una mica, neix a Texas l'any 1939, és un escriptor una mica, no si diria una mica traumatitzat, però sí per la figura materna i paterna, és un escriptor doncs, que pertany a aquesta generació de Montana, m'agradaria que expliquéssiu una miqueta què és aquesta generació o aquesta escola de Montana que es va arribar a dir, una mica també doncs, aquest conflicte que va viure també militar i volia ser poeta, Crumbly, no? I finalment va acabar fent novel·les negres. Els 3 que d'alguna manera la Marta l'has traduït, tu Jordi l'has treballat a alguns assajos i has parlat en algunes ocasions de Crumbly i el Benoit Tadié, que ha escrit molt sobre el Crumbly, què podem dir de la vida d'aquest escriptor, no? Per contextualitzar-lo una mica, a quina generació pertany, on entra Crumbly, on el podem ambientar?
Bueno, en principi, Crumbly seria un autor de la tercera generació de la novel·la negra nord-americana, de la generació dels 70, i d'alguna manera s'ha parlat de l'escola de Montana, que en realitat jo penso que no és una escola literària, és un club de bebedors. O sigui, des de Richard Ford, Brautigan, el Richard Hugo, hi ha un munt d'escriptors, clar, penses, el Crumbly estava radicat a Missoula. Missoula és una ciutat de 70.000 habitants, un Manresa. I penses, una ciutat com Manresa, amb un centenar d'escriptors, i d'artistes, la ciutat on va néixer el David Lynch, el director de cinema. Llavors, d'alguna manera, sí, s'ha creat l'etiqueta aquesta de l'escola de Montana, però que en realitat jo penso que tenen molt poques coses en comú. És a dir, hi havia el James Lee Burke, que era escriptor de novel·la negra, però hi ha autors de temes molt variats. Per tant, no, jo diria que no seria una escola, sinó que són uns tipus que van decidir anar-se'n a viure en un lloc gairebé extrem, un país, una zona de grans planures, d'altes muntanyes, de molt fred a l'hivern, i suposo que era una mica un retorn a la natura, però que després cadascú l'ha agafat com li ha semblat.
Benoit, què podem afegir de...
Oui, merci d'abord de votre invitation. Je suis très heureux d'être ici et très honoré. Pour continuer donc sur ce que vient de dire Jordi sur l'école du Montana, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à mon avis, ce sont des écrivains qui se sont retrouvés dans le Montana, mais qui ne sont pas pour beaucoup natifs de cet endroit. Ce sont eux-mêmes des migrants qui ont recréé une communauté, disons, comme on le disait, de viveurs. Et je crois que ce n'est pas qu'une figure de style ou habite. Pour un auteur comme Cromley, on sent que le lieu social fondamental, c'est le bar où se retrouvent les personnages qui boivent ensemble, et que c'est le premier lien social, beaucoup plus que la famille ou que justement les parents, parce que la famille chez lui, comme chez d'autres écrivains de romans noirs qui l'ont précédé, je pense par exemple à Raymond Chandler, mais aussi à Ross MacDonald, la famille, c'est toujours un lieu, une sorte de nœud de vipère, hein, de lieu profondément destructeur, et c'est plutôt dans le bar et dans les rencontres un petit peu casuelles ou éphémères qui se font dans les bars que se reconstruit une communauté plus positive. Donc voilà une chose. Par ailleurs, comme on a dit sur Cromley, oui, alors c'est un auteur qui est lui né dans le Texas, dans le sud du Texas, et qui a grandi là-bas. Il a été très malheureux, il venait d'une petite ville qui s'appelait Three Rivers, qui est une toute petite bourgade encore aujourd'hui. Son père était un travailleur itinérant dans les champs du pétrole. C'était pas du tout un enfant de la bourgeoisie, c'était vraiment un enfant de la classe ouvrière. Son père n'a jamais eu d'éducation avancée, et lui-même a dû beaucoup travailler pour arriver à rentrer, pour finir ses études secondaires et pour commencer des études supérieures. Il n'aimait pas donc le lieu où il est né. C'était en plus une bourgade très raciste. Il y avait beaucoup de travailleurs d'origine mexicaine qui étaient méprisés par la petite population blanche. C'est un peu l'Amérique de Trump, comme on pourrait dire aujourd'hui, peut-être. Et donc, je crois que très jeune, il est parti à l'armée, peut-être, pour fuir tout ça, alors même qu'il avait déjà commencé ses études, mais pas encore fini. Et il a passé 3 ans à l'armée, donc dans les Philippines, entre la fin des années 50 et le début des années 60, ce qui est effectivement le sujet de son premier roman sur la vie militaire. Et ensuite, il est rentré. C'est grâce surtout, je pense, à ses talents de footballeur qu'il a réussi à finir ses études, puisque dans les universités américaines, quand on est bon au football, on peut avoir une bourse pour finir les études. C'est comme ça qu'il a fini. Et ensuite, il a été dans plusieurs universités. Il a notamment été, au milieu des années 60, dans un programme de creative writing pour devenir écrivain à l'université de l'Iowa, qui était un programme assez avancé. Et c'est là qu'il a vraiment découvert la littérature et qu'il a voulu devenir écrivain. Et c'est d'ailleurs en travaillant dans ce programme, son premier roman est issu de son... C'est un master, en fait, puisque pour faire son master, il fallait écrire un roman. Et c'est de là qu'il a sorti son premier livre. Peut-être que je vais trop loin déjà dans la question, mais c'est pour dire qu'il fait partie de cette génération d'écrivains qui sont vraiment sortis de la vie ordinaire, difficile de la classe ouvrière, et qui ont ensuite été marqués par l'expérience militaire, et troisièmement, donc, qui ont migré vers cette nouvelle communauté de l'Ouest où ils ont construit une solidarité avec d'autres auteurs. Et on retrouve dans leur thème donc à la fois la violence propre à l'histoire policière, le goût de la nature qui est très important dans le Montana, l'expérience de la guerre du Vietnam qui est contemporaine de leur jeunesse, et peut-être aussi quelque chose qui est propre au Montana, qui est le conflit entre la nature, comme je l'ai dit, et aussi l'exploitation de la nature, l'exploitation minière en particulier. Le Montana a toujours une histoire sociale très violente, parce qu'il y avait des mines qui ont vu au début du siècle des conflits très virulents entre les mineurs et les entrepreneurs. Et donc, il y a toujours eu, notamment dans les mines de cuivre de Butte à Montana, des conflits très durs et une question environnementale très importante. On sent que c'est aussi une question qui le préoccupe, puisqu'il est beaucoup question de la nature et de la destruction de la nature dans ses romans. Voilà pour un début.
Bon, seria lo de, el poison vil de Hamet.
Voilà, exactement.
Exactement, exactement.
Voilà, exactement.
Marta, no sé si tu, a tu et cau crumlir quan ets molt jove, és a dir,
sí.
Ho ets ara, tenies fa 30 anys d'aquesta traducció,
sí, sí.
No? Et documenta sobre l'autor en aquell moment, vull dir, dius, vaig a veure qui tradueixo, no? Tradueixo un autor que gairebé era desconegut del tot. I per tant, com t'enfrontes amb aquest repte, no? Perquè és un repte complex, no? Difícil.
Sí.
És un autor molt d'argot, difícil de traduir.
Ara no recordo en aquell moment que vaig fer, però sí que he estat pensant els recursos que jo feia servir, no? Perquè a l'any 90 no hi havia ni internet, ni llibres electrònics, ni res d'això. I jo acostumava a anar a la biblioteca de l'Institut Americà i allà doncs, les bibliotecàries m'ajudaven, podia preguntar coses concretes o em deien alguna documentació o així. I no sé si m'estàs preguntant això.
Sí, sí, sí.
I també doncs, vaig fer servir un diccionari de slang i no sé si va ser en aquesta novel·la o en una altra, o en totes dues, que vaig posar un anunci a la llibreria Comín dient necessito ajuda d'un nadiu per una traducció, perquè clar, hi ha coses que les busques avui per internet,
sí.
I és molt fàcil, no?
Sí.
I doncs vaig trobar una persona que li vaig pagar i li vaig dir dubtes, això, per tot el context cultural que clar, en aquell moment no podia referenciar d'una altra manera. I bueno.
Parlem una mica de la novel·la, entrem una mica en el terreny literari, Crumley ja el tenim una mica ubicat, per què hi ha aquest elogi cap a aquesta novel·la? És a dir, aquesta novel·la és, jo m'atreviria a dir que és un western, gairebé, és una novel·la que, diguem-ne, podria tenir una estructura de novel·la negra, té una estructura de novel·la negra, un detectiu en primera persona, no? Que en principi ha de buscar un escriptor alcohòlic, el Traheim, no? El troba amb relativa rapidesa, i tots dos inicien com un viatge iniciàtic, jo diria, cap a molts llocs, no? Cap a l'amistat, cap a l'odi, cap a la venjança, cap a la reflexió de la vida, la reflexió de l'art i de l'artista. És una novel·la que passa moltes coses, que surten molts personatges, hi ha una relació molt intensa amb l'alcohol, comença sent una novel·la negra i acaba sent pràcticament una novel·la esbojarrada, no? Que no saps on estan els límits d'aquests personatges, no? On estan els límits d'aquestes vides. Expliqueu-me una mica les vostres impressions a l'hora de llegir i traduir aquest text, no? Perquè és molt fort, és un text que d'alguna manera al final fins i tot hi ha el bulldog que els acompanya que també és alcohòlic, no?
Sí, sí.
Vull dir, és un viatge molt destructiu, fins i tot el detectiu és molt destructiu, no? Expliqueu una mica què la fa tan especial aquesta novel·la, per què l'hem de llegir, perquè què és tan especial en Crumley?
En principi, jo diria que és una novel·la que pràcticament fa de frontisa entre la novel·la negra clàssica i el que seria el neo-noir. És el final, de la novel·la negra clàssica. És un gran homenatge a Raymond Chandler. És una novel·la que dona veu del llarg adéu de Chandler. I és com un munt de novel·les en una sola. És a dir, jo diria que és el millor primer capítol de la història de la novel·la negra. El primer capítol és un festival. És un festival que dius, poden passar més coses i només acabes de començar. A partir d'aquí comença una novel·la. El Sucru, el protagonista, el detectiu, és una mena de cowboy amb una novel·la que, diguem-ne, que quan acaba han recorregut com 6.000 quilòmetres, que això, bueno, també penso que és una cosa molt nova a la novel·la negra. El detectiu clàssic és un detectiu de ciutat. El Marlowe corria màxim per Califòrnia. Però, en canvi, a la tercera generació la gent es comença a bellugar molt.
Amb molts llavors, quilòmetres, aquí, sí, molts, realment, molts.
Jo me'n recordo, quan la vaig llegir, em va recordar, per exemple, la novel·la de Mark Bem.
L'Observador. L'Observador. L'Observador.
Observador?
No ho sé. Quina?
Té un títol així, però no és el... No. En francès és Mortel de Randoni. Bueno, però és una novel·la que és com un road movie durant tota la novel·la. I això a la novel·la negra clàssica no passava. Es bellugava amb ciutats molt concretes, el màxim que feien era anar al poble del costat. A la tercera novel·la, a la tercera generació, i sobretot amb aquesta novel·la, diguem, es corre pràcticament tot el que és l'oest dels Estats Units. Va de Califòrnia a Montana. Després, l'alcohol és importantíssim.
Excessiu.
Sí, diguem, la búsqueda de l'escriptor, del Trehane, és una mica també la búsqueda que fa Marlowe al llarg que deu del Roger Wade.
Del Terry Lennox, sí.
És una mica... Bueno, és quasi bé com un paral·lelisme constant, però amb la novel·la del Crumley és tot molt més laberíntic, passen moltes més coses. O sigui, realment te n'adones que les novel·les de Chandler són com
més planes,
com més planes sentit, sí, comparades amb això, perquè això és un no parar, és un continu, és excessiu, és un gos alcohòlic, l'escriptor alcohòlic, el detectiu alcohòlic, els tipus que hi ha als bars, el subru és un festival.
Benoit, aquesta mobilitat, pregunto, a més de parlar de la novel·la, aquesta mobilitat tan gran del personatge es deu una mica també a això que explicava el Crumley, que ell de petit també havia viatjat molt, que anava d'un lloc per l'altre i que, per tant, a l'oest dels Estats Units sempre és una constant, no? Això d'haver-se de moure constantment. Té alguna relació o no?
Ah oui, sûrement. Je pense que ce sont des romans très autobiographiques, en réalité, tout en étant délirant, exubérant, fou. On sent que dans ces deux personnages principaux, qui sont les héros de ces différents romans, donc Sugru d'un côté et puis Milo Dragovic de l'autre, qui sont les deux détectives qu'il a inventés, ce sont deux versions de lui-même. Et tous les deux ont été marqués justement dès leur jeunesse par cette mobilité. Et je crois que le grand thème en fait de Crumley, c'est la perte de la maison. C'est pour ça qu'ils bougent tout le temps, c'est qu'ils n'ont nulle part où se poser, ces personnages, finalement, à part dans des bars. Tous les deux, d'ailleurs, sont à la fois détectives et barman d'occasion. Et c'est ça, c'est pas tellement la découverte du territoire de l'Ouest, mais c'est plutôt le fait que nulle part, ils ne trouvent un endroit où s'installer et se fixer. C'est ce qui est assez frappant, particulièrement dans The Last Good Kiss, parce que ce n'est pas un voyage initiatique comme celui d'Ulysse autour de la Méditerranée qui reviendrait chez lui, c'est plutôt quelque chose qui va et vient dans tous les sens, sans aucun ordre, et qui revient souvent sur les mêmes endroits sans pouvoir jamais s'installer. Et ce qui est assez poignant dans ce roman, je pense, qui lui donne sa profondeur, c'est justement ce thème-là, qui est un thème très important dans la littérature américaine, puisque c'est une littérature qui a été marquée beaucoup par la question de la migration, bien sûr. Et l'idée, par exemple, à mon avis, un des romans qu'il y a derrière ce livre, c'est un roman très célèbre qui est Les raisins de la colère de John Steinbeck, qui est sur la migration des années 30 des pauvres paysans de l'Oklahoma qui sont allés vers la Californie. Et lui-même, Sugru, c'est un enfant de paysan de l'Oklahoma. Et tous les personnages, là, en réalité, viennent de l'Oklahoma aussi et se sont installés à l'ouest. Et personne n'arrive vraiment à recréer une famille qui fonctionne. Il y a des drames partout et des désastres partout. Je crois que C'est un peu ça, d'ailleurs, à la fin du roman, sans vouloir trop le dévoiler la fin, mais le personnage le plus fuyant, justement, la femme qui disparaît et qu'on retrouve, c'est une femme qui cherche à reconstruire un domicile et qui n'y arrive jamais, finalement. Et c'est la tragédie du roman, et je pense que c'est aussi une tragédie personnelle chez lui, puisque d'abord, son père était un travailleur itinérant, lui-même n'aimait pas du tout son lieu d'origine au Texas, et c'est pour ça qu'il a... Il a quitté assez tôt et il n'a jamais aimé cette région. Et c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans ses livres. Et par ailleurs, il menait une vie qui était assez comparable à celle de ses détectives. Il s'est marié 5 fois, il buvait tout le temps, il prenait de la cocaïne tous les jours, il mangeait 5 fois par jour. Ce n'était pas du tout un personnage puritain ni sobre. Et je pense qu'il en est mort d'ailleurs assez jeune malgré tout, mais il disait je vis avec tellement d'intensité que même si je meurs 10 ans plus tôt, c'est pas grave.
Fins i tot era un defensor de la cocaïna, no? Deia que sí. Moltes vegades la cocaïna servia per atenuar els dolors i que s'hauria de legalitzar. Vull dir, ell els darrers anys de la seva vida donava una mica aquesta sensació d'home molt desgastat, no? A les diferents entrevistes que feia. El Jordi ha insinuat un aspecte que em sembla interessant, que és la relació que té Crumley amb Chandler, no? M'agradaria, a veure si podem establir un paral·lelisme entre quan Crumley descobreix Chandler, fins a quin punt és d'autor Crumley de Chandler, aquest paral·lelisme que pot haver-hi entre L'últim petó autèntic i El llarg adéu. Jo crec que és important l'amistat que hi ha entre el detectiu, el Sugru i Traherne i Marlowe i Terry Lennox. Crec que hi ha un paral·lelisme important. I a veure, fins i tot les casualitats de la vida fan que tots dos van escriure 7 novel·les policíaques, casualitats, però, i després fins i tot Crumley va guanyar el premi Chandler a Itàlia, no? Quins paral·lelismes podem extreure en aquesta relació entre Crumley i Chandler? Que és interessant, això.
Jo diria que la novel·la comença d'una manera molt similar a Llarg Adéu i després d'alguna manera deriva en el que podria ser Adéu Nena de Chandler. És a dir, primer se li encarrega que busqui un escriptor alcoholitzat que es perd pels bars, un encàrrec que li fa l'exdona de l'escriptor al detectiu, després de córrer uns quants bars i tal, l'acaba trobant, i a partir de llavors, diguem-ne, per encàrrec de la mestressa del bar, el Sugru, l'escriptor alcoholitzat i el Bulldog alcoholitzat marxen tots tres a la recerca
de
Betty Sue, que és una noia que va desaparèixer fa 10 anys i per tant és un cas com complicat de rastrejar. A partir d'aquí seria una mica, diguem, com connecta amb la Déu Nena de Chandler. Jo crec que Crumley coneixia molt bé l'obra de Chandler, l'havia llegit molt i molt bé i havia disseccionat molt bé els personatges, els recorreguts, i d'alguna manera fa com una reescriptura però anant molt més enllà. Vull dir, una de les coses, per exemple, és el tractament del sexe amb Crumley, no té res a veure amb Chandler. És a dir, Marlowe no deixa de ser un purità comparat amb Sugru, que és fill de la contracultura, de l'estiu de les flors, i és abans de la generació de la sida. Per tant, diguem-ne, és l'època dels anys 70 en què el sexe era una de les coses, diguem-ne, més fantàstiques, però això va durar tan poc.
Benoît?
Oui, alors je crois qu'effectivement Chandler est très important pour Crumley, comme l'a très bien dit Jordi. Il lui a emprunté beaucoup de choses. Il se disait lui-même, il se proclamait l'enfant bâtard de Raymond Chandler, donc il revendiquait cette filiation. Et ce roman, bien sûr, The Last Good Kiss, il la reprend plusieurs motifs à différents romans de Chandler, comme l'a dit Jordi, parce que Cromley les avait lus de nombreuses fois et je pense qu'il s'était beaucoup imprégné de l'univers de Chandler et même sans s'en rendre compte, il reproduisait certaines choses qui se trouvaient dans les romans de Chandler. On a déjà cité Le Long Adieu pour l'amitié finalement, le thème de l'amitié trahie. Et puis il y a aussi dans Le Long Adieu un écrivain alcoolique qui a perdu la capacité d'écrire et qui préfigure celui de ce roman. On a parlé d'Adieu ma jolie avec effectivement la recherche d'une femme qui a disparu des années avant le début avant que l'histoire ne commence et dont il faut retrouver la trace. Il y a aussi quelque chose. Alors déjà ça, la recherche d'une personne disparue, c'est vraiment le grand thème de Chandler, le grand mécanisme narratif de Chandler. Toutes ces histoires, tous ces romans, ce sont des histoires de personnes qui ont disparu et qui ensuite, en général, ont changé d'identité. Ce qui fait que quand Marlowe, chez Chandler, retrouve ses personnages, en général, c'est plus les mêmes personnes et il est toujours déçu de les retrouver. Finalement, il les perd une deuxième fois en les retrouvant. Et je pense que chez Cromley, il y a aussi un peu cette idée qu'on repère, c'est une perte qui se répercute à l'infini, un peu comme chez Chandler. Il y a un autre roman, à mon avis, qui est assez proche de celui-là par un thème, c'est La Dame du Lac. The Lady and the Lake de Raymond Chandler, où il est aussi question d'une femme qui a disparu et aussi question d'une permutation d'identité entre deux femmes. Il y a quelque chose de très proche. Dans La Dame du Lac, il y a une femme qui est noyée et une autre femme qui prend sa place et on trouve exactement la même chose aussi dans The Last Good Kiss. C'est presque trop, on pourrait presque penser qu'il a fait du plagiat, mais je crois que c'est plutôt qu'il s'est tellement immergé dans l'univers de Chandler que sans s'en rendre compte, il reproduisait des motifs chandlériens. Mais en même temps, il a, comme l'a très bien dit Jordi, il a une écriture à lui qui n'a rien à voir, qui existait déjà avant, puisque le premier roman qu'il a écrit sur l'armée, sur la guerre du Vietnam, il l'a écrit avant de connaître Chandler. Donc on voit bien ce qui est déjà chez lui avant la découverte de Chandler. Et puis il y a effectivement tout ce thème de l'excès, excès de vie, excès d'alcool, excès de sexe, excès de drogue, qui est tout le contraire de ce que fait Marlowe, le détective de Chandler et de ce que fait aussi le détective de Ross MacDonald, Lou Archer, qui sont deux détectives au contraire extrêmement puritains et qui sont choqués par ce qu'ils voient. Et puis il y a une dernière chose, je pense, qui les différencie profondément, c'est que le détective de Chandler, comme le détective de Ross MacDonald, ce sont des personnages un peu mythiques et des personnages innocents. C'est peut-être les derniers moralistes innocents dans un univers qui est corrompu, alors que les personnages de Cromley, ce sont des personnages coupables. Ce sont des détectives qui ont fait des choses horribles, tous les deux. Surtout Shugru, qui a, pendant la guerre du Vietnam, tué toute une famille vietnamienne en jetant une grenade sur leur cabane et qui en est resté traumatisé. Donc il porte sur lui les marques d'une histoire violente et coupable. Il n'est pas en dehors de cette histoire américaine, il est en plein dedans. Et donc il n'a pas cette position morale d'où juger les autres, il fait partie lui-même de cette pourriture qui l'environne. C'est ça qui, à mon avis, est très nouveau aussi par rapport à Chandler.
Parlem una mica de la recepció del text, que a mi això em sembla interessant. Jo crec que Cromley ha tingut dues recepcions molt diferents a França i aquí, al nostre país, no? Penso que Cromley és un autor desconegut, encara avui. Segurament quan mirem els decàlegs dels grans escriptors de novel·la negra d'aquest país, ningú cita James Cromley, cita a Chandler, a Hammett, Cromley surt poc citat. Aleshores, a mi m'agradaria preguntar quina ha estat la recepció a Espanya i a França d'aquest autor, no? La Marta, a veure que expliquis una mica com recordes com cau Cromley en aquell moment, com t'ofereixen Cromley, és a dir, si el Xavier Coma t'explica, et diu alguna cosa, o és Edicions 62, que t'ho proposa, i si recordes una mica la recepció del text. És veritat que la portada diu segona edició, però no ens enganyem, perquè passen 5 anys de diferència entre la primera i la segona, i les seleccions de la Cua de Palla era una col·lecció molt seguida per molts lectors, vull dir que en principi no podem parlar d'un èxit editorial. Quins serien els motius pels quals això ha succeït? I en el cas de França, jo crec que és bastant al contrari. Jo crec que Cromley ha estat un autor molt ben adoptat a França, el van convidar moltes vegades, Aleshores, es dona una mica una paradoxa, no? Perquè té dues traduccions, abans el Carlos parlava de la segona traducció que ha tret ara Salamandra amb l'Enrique Deriz, i per tant, gràcies a la NIC hi ha un redescobriment de Crumbly a Espanya, però no té una, encara no té una recepció com es mereix. No vull pensar que com és un autor molt negre no agrada, sinó que vull pensar que potser és una qüestió d'un buit editorial que hi ha en un cert moment. M'ho expliqueu i després el Benoit que explica una mica doncs, si Crumbly va tenir una bona acollida a França o no. Aquí crec que són dos mercats diferents.
No? No sé, a mi em va encarregar la traducció la redactora d'Edició 62 que en aquell moment portava la cua de palla, que era la Maria Ginés, i ella em coneixia com a col·laboradora, com a correctora i traductora, i doncs per això m'ho va encarregar. I jo amb el Xavier Coma no vaig parlar.
No vas arribar a parlar?
No. Bueno, és això. Sé que, com has dit, es van molt seguit es van publicar tres obres de Crumbly.
Gairebé el mateix any, diria.
Sí, 91 i 92.
92. I inclús les altres dues, que són del Milo, no les fas tu. És a dir, tu fas la del Sugru i les del Milo les fa l'Esther Roig, que és un, són dades, però...
Suposo que com que van sortir molt seguides tampoc potser no ho podia fer tota la mateixa persona al mateix moment. Després jo també treballava en una altra editorial, tampoc vaig tenir temps. Jo conjecturo que al sortir tan seguides devia ser que es devia haver de fer una oferta des de l'editorial pels tres títols, no? Que es devia dir doncs Crumbly és un autor molt conegut i per tant val la pena fer les tres obres. I en quant al ressò de 62, com que és una edició molt antiga, no m'han pogut proporcionar dades de vendes i això i sé que en castellà s'ha reeditat ara i no sé, jo
amb
miraré
un
lleuger
canvi de títol, això sí.
Sí, sí.
L'último beso, l'último beso, no? Per què no ha tingut èxit Crumbly, Jordi, a Espanya?
Penso que el que va passar és que quan Crumbly comença a publicar a mitjans dels 70, aquí tot just estàvem descobrint els grans clàssics de la novel·la negra nord-americana. Era quan es començava a publicar Hammett, Chandler, Goodis, Thompson, Kane, Barnett. I quan es va començar a publicar aquí, diguem que és el 91-92, és quan comença a desinflar-se el boom de la novel·la negra, amb el que es va quedar una mica com penjat. I això va passar no tan sols a Crumbly, sinó va passar amb altres autors. Per exemple, el George Higgins és un autor que d'alguna manera va quedar com també despenjat i ara d'alguna manera se l'ha recuperat a partir de les edicions d'Asteroide, però que en el seu moment, quan es va publicar, va passar absolutament desapercebut. Llavors, clar, és bastant curiós també, per exemple, aquest llibre surt el 91 en català i no surt en castellà fins al 2010-2011. 20 anys. Hi va haver una època que aquest país, les editorials en català podien publicar un llibre 20 anys abans de que es traduís al castellà. Això és una cosa bastant impensable en aquest moment. I en aquests moments, d'alguna manera, ha sigut redescobert gràcies a l'Annick Lapointe, perquè el va publicar RBA el 2010-2011 i l'han publicat ara a Salamandra, cosa que és d'agrair. Però en canvi, realment el món editorial en català de novel·la negra ha quedat com bastant perdut. Sí. És a dir, una col·lecció com La Cua, que havia publicat grans obres i havia sigut bastant puntera,
ha quedat un buit.
Ha quedat absolutament desapareguda.
Benoit, recordo el James Crumbly a França en diversos festivals, inclús recordo una taula amb Lizzo, que tots dos parlaven de la seva obra literària. Sí, se'l va valorar a Crumbly a França, no? Podem parlar d'un autor que també ha tingut diversos editors, inclús diversos títols, però sí, ben valorat a França, no? Se'l valorava, fins i tot ell havia dit alguna vegada, si no vaig errat, que se'l valorava més a França que als Estats Units.
No,
Je crois qu'aux États-Unis, pour en parler très vite, il est quand même, il a été très bien considéré, surtout par d'autres écrivains de romans policiers, qui le citent toujours. On a parlé de Dennis Lehane, aussi George Pelecanos, et d'autres qui l'ont toujours dit que c'était une inspiration pour eux. Et je pense que le rôle qu'il a joué vraiment aux États-Unis, qu'il n'a pas joué en Europe, c'est d'inspirer une génération de jeunes qui arrivaient... a commencé à écrire dans les années 80-90 et qui ont trouvé vraiment en Crumley une sorte de père spirituel, c'est-à-dire peut-être le premier écrivain qui avait acclimaté le polar à la contre-culture, pour dire les choses rapidement, ou qui avait hybride, fait une sorte de roman hybride entre le roman sur le Vietnam et le roman policier. Et je crois qu'il a, il a vraiment joué un très grand rôle dans le renouveau de l'écriture policière américaine vers les années 80 et 90. C'est pour ça d'ailleurs que ça n'a jamais été un auteur très populaire aux États-Unis. Il n'a pas vendu énormément. Ce n'est pas comme les grands écrivains de thriller, mais c'est un auteur qui est aimé par les écrivains, beaucoup. En France, les choses sont un petit peu différentes parce qu'il y a quand même eu un petit temps de retard. Il n'a été traduit en fait qu'à partir des années 80. Le premier roman qui a été traduit, c'était justement Le Dernier Baiser. À l'époque, il avait été traduit sous le titre de Le Chien Ivre, ce qui... n'est pas exactement la même chose, même s'il y a un chien ivre dans le livre. Et le roman a été, n'a eu aucun succès sous ce titre. Il est passé absolument inaperçu. Et c'était d'ailleurs une traduction assez ratée, puisqu'il y avait une faute célèbre qu'on cite toujours, c'est qu'il traduisait a topless bar, qui est un bar où les serveuses sont déshabillées, par un bar sans toit. Ou des choses comme ça, bon, qui n'avaient quand même pas contribué non plus au succès du roman. Et ensuite, il a effectivement été retraduit deux fois, ce roman, 15 ans après, d'abord dans la série noire, sous son titre Le Dernier Baiser, par Philippe Garnier. Là, c'était une bien meilleure traduction. Et il a été très défendu à cette époque-là par le patron de la série noire, qui est lui-même un auteur de romans policiers, qui s'appelle Patrick Reynal, et qui a joué un rôle important pour défendre un certain nombre d'écrivains américains. Notamment à une époque, je pense, les années 90, où l'Amérique commençait de nouveau à attirer beaucoup le public français après une période de déclin de du goût des lecteurs français pour la littérature américaine. Elle est revenue vraiment en force dans les années 80 et 90, avec de nouveau un imaginaire qui plaisait au public et qui a été beaucoup entretenu par des festivals, par la presse. Donc il y a toujours un rôle, bien sûr, de l'industrie culturelle pour soutenir ces choses-là. C'est grâce à ça que Crumley a été effectivement invité en France, où il a participé à des tables rondes. Il a été notamment invité, pas seulement dans des festivals de romans policiers, mais aussi dans un grand festival qui s'appelle Étonnant Voyageur, qui a lieu à Saint-Malo, qui était un festival sur la littérature de voyage et des grands espaces, qui a un énorme succès. Donc il a touché, au-delà du public qui lit des romans noirs, qui n'est pas très grand en réalité, il a touché aussi tous les amateurs, disons, d'exotisme et de littérature américaine des grands espaces. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il connaît un très grand succès grâce à un troisième éditeur, après Gallimard et après le premier qui était Albin Michel, je crois. Il est maintenant ressorti dans une nouvelle traduction il y a un an, chez l'éditeur Gallmeister, qui s'est fait une spécialité de la littérature américaine, à la fois policière et des grands espaces, littérature de l'Ouest en gros. Et Crumley, comme il est tout à fait dans la littérature de l'Ouest, de la nature et en même temps dans les intrigues criminelles, il est aujourd'hui vendu comme un grand écrivain américain, point, plus comme un écrivain de romans policiers ni un écrivain de genre, mais comme un écrivain généraliste, si on veut, et pour cela, je pense qu'aujourd'hui, il connaît une autre vie, effectivement, importante, et il a beaucoup, beaucoup de succès critique. Je ne connais pas très bien les chiffres de ses ventes, mais je sais que c'est un succès important, puisque cet éditeur est maintenant retraduit toute son œuvre, ce qui est une bonne chose, parce que ça permet d'avoir le même traducteur pour tous les romans, ça permet d'avoir une plus grande cohérence aussi d'un roman à l'autre, que quand les romans étaient dispersés entre différents éditeurs et différents traducteurs, ce qui était le cas avant. Donc aujourd'hui, il prend un statut un peu plus classique, on peut dire, en France. Et depuis qu'il est mort, en plus, ça donne l'impression que c'est un auteur classique.
És molt interessant, i sobretot perquè també s'haurien de traduir algunes novel·les del Krumlik, que aquí no estan traduïdes, no? És a dir, tenim tres, quatre títols, però en faltarien inclús algun que es troben els seus dos personatges junts, el Subru i el Milo, no? I seria interessant, doncs, que algun editor s'engresqués una mica a traduir les novel·les que falten. A mi m'agradaria que el públic que avui està aquí a BC Negra conegués una mica la manera d'escriure del James Krumlik, perquè he llegit algunes coses que m'han esgarrifat. És a dir, qualsevol escriptor ara mateix, ara que els escriptors escriuen i volen publicar novel·les una cada any, si escoltessin el Krumlik se'ls hi posarien els pèls de punta, perquè el primer paràgraf de l'últim petó autèntic diu el James Krumlik que té 20 versions. És brutal. Em permeteu? M'ho permeteu? Marta, m'ho permets? Quan finalment vaig aconseguir Abraham Traherne, era amb un bulldog alcohòlic que es deia Fireball Roberts, bevent cervesa en un local desmanegat de la sortida de Sonoma, a Califòrnia, deixant passar una tarda benigna de primavera. 20 versions té aquest paràgraf. I no sé si és veritat, 8 anys, imagina't per un escriptor dir-li 8 anys, va trigar a escriure no la novel·la, el primer capítol. Cada vegada que li preguntaven per la seva manera d'escriure, deia que ell seia davant de l'ordinador i passava hores i hores i hores davant de l'ordinador esperant que sortissin les paraules, no?
L'ordinador.
La màquina d'escriure, bé. En aquest cas era la màquina d'escriure. Soc d'una altra generació. La màquina d'escriure. I deia que reescrivia i reescrivia constantment, que es passava hores davant de la màquina d'escriure, doncs esperant, no?, que li vingués la inspiració. És insòlid. És una manera d'escriure. A més, no donava resposta a aquesta pregunta. Avui deia, sec i intento fer-ho el millor que puc. Fins i tot deia, volia ser poeta, no he pogut ser poeta, era molt dolent. L'humor l'utilitzo molt, per mi és molt important. L'absurd també, penso que és un altre dels grans temes de les seves novel·les. És un escriptor lent, com era el Chandler també, no?
Bueno, sí, Chandler és un personatge que comença escrivint contes, que després molts d'aquests contes els canibalitza per construir les novel·les. Krumlik també és un escriptor, diguem, de reescripció, de crear grans frases o grans paràgrafs. Després les històries són esbojarrades i és una de les coses que volia aprofitar aquí en Benoit aquí per demanar-li. Jo me'n recordo quan el vaig llegir, em va recordar una mica a Richard Brautigan, que és un altre autor americà de la mateixa època, per aquest esbojarrament de les trames, perquè realment és, diguem, el Brautigan escriu, diguem, frases molt més simples, però en canvi, diguem, el Krumlik fa grans frases, però després tota la trama és com molt, molt esbojarrada, i l'esbojarrament aquest era el que em recordava a Brautigan.
Alors, je pense effectivement il y a un univers commun qui est lié notamment à l'environnement où ils se trouvaient tous les deux, hein, puisqu'ils étaient tous les deux associés au Montana, mais je crois qu'il y a une différence aussi qui est le fait que, en réalité, Krumlik est un écrivain profondément lyrique, je pense, d'où ces grandes phrases sur le paysage. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de frappant chez lui, c'est l'alliance entre deux registres tout à fait contraire de l'écriture. Il y a un côté très trash, on peut dire, avec des beuveries, la cocaïne, la violence, le sang, enfin toutes sortes de détails horribles dans l'action. Et puis il y a de grands passages lyriques en même temps, et je crois que c'est quelque chose d'assez nouveau dans le roman noir, et même dans le roman tout court. C'est probablement ce qui a fait sa force en partie. Et puis pour la question de la folie, oui, il y a effectivement chez les deux une folie profonde. Je me souviens d'un entretien avec Krumlik, qu'on peut d'ailleurs voir sur YouTube en France, où il explique que le monde est fou, que le monde est complètement fou, et que la seule chose qu'on puisse faire, c'est en rire. qu'il n'y a pas d'autre solution, ou alors il faut se tirer tout de suite une balle dans la tête. Il dit, ce qui est pas, là, en gros, sa philosophie. C'était aussi quelqu'un, je crois d'ailleurs que Chandler n'était pas très différent en réalité. Quand on lit les textes de Chandler, on voit aussi qu'il dit que c'est un univers qui s'est totalement déréglé, où la vie humaine ne vaut plus rien, et où la seule chose qui peut être intéressante, c'est de tirer des histoires amusantes de cette réalité qui est horrible. Je crois finalement ils ont un peu le même point de vue aussi sur ça, c'est-à-dire un monde qui a atteint un degré de folie absolument irréparable. De ce point de vue-là, je crois qu'il est tout à fait à la mode, enfin pertinent pour aujourd'hui, Crumley, parce qu'on est dans une période encore plus folle aujourd'hui que celle où il vivait lui, et du coup il gagne en pertinence à mesure qu'on lit ces histoires, même ici par exemple dans ce volume où il y a ces trois premiers romans, le troisième qui s'appelle L'ours qui danse, Dancing Bear, c'est un roman qui est entièrement sur le dérèglement de l'environnement et la destruction de l'environnement, et ça préfigure de manière tout à fait intéressante tout ce dont on parle aujourd'hui sur les thèmes de dérèglement de l'environnement, mais vu sous un angle absolument absurde, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a rien qui permet de corriger la folie de cet univers qui s'emballe toute seule. Il n'y a absolument aucun, plus personne n'a la force d'arrêter cette machine qui s'est emballée. Donc je crois que voilà un peu aussi quelque chose qui est profondément chez lui et qui ressemble peut-être pour ça à la folie de Brautigan aussi.
Molt interessant. Marta, eres conscient del primer paràgraf que tenia d'inversions o no va de traduir-lo?
Sí, sí, ho vaig...
Sí?
Bueno, quan ho vaig traduir, no, ara sí.
Molt bé. Jo us volia, se'ns acaba el temps, comencen a marcar-me, volia fer-vos dues petites preguntes. Parlem molt del Sugru com el protagonista de l'últim Pato Autèntic, però té un altre personatge també molt important, el Crumley, que és el Milo Dragovich, no? Són dos personatges amb oficis, amb el mateix ofici, solitaris, amb un codi ètic molt marcat.
Alcohòlics.
Sí. Però amb orígens molt diferents. Quina diferència veieu entre el Sugru i el Milo? O de quina manera pot utilitzar Crumley un i un altre detectiu, i de quina manera ho fa, no? És a dir, perquè són dos personatges que coincideixen en alguns aspectes, però amb uns altres són completament diferents. Fins i tot el Milo se n'aniria molt més a l'escola tradicional dels detectius, no? Més amb una línia del Lee Archer o... Sí. És a dir...
Tenen orígens molt diferents. El Sugru és fill de la classe obrera, el Milo Dragovich és Milo III, és provinent d'una família russa instal·lada a Montana, i han sigut, diguem-ne, una de les famílies importants de Meriwether, que és Missouri.
És Missouri.
Llavors, una constant del Milo és que és un tipus que el seu pare es va morir netejant una escopeta, que després possiblement sigui un suïcidi, i al cap d'uns anys la seva mare es suïcida. I ell sempre va tenir com bastanta mala relació amb tots dos, i suposo que els seus pares també, i llavors li deixen una herència que podrà cobrar quan tingui 51, 52 o 53 anys. Això depèn bastant de les traduccions. He anat veient que varia.
Canvia.
I, per exemple, hi ha em sembla que és el Pato Mexicano, que és una de les novel·les del Sugru. Al final de la novel·la, el Sugru entra a un bar i el que està darrere la barra és un tipus que havia sigut soci seu, que marxa a cobrar una herència que té de cobrar quan faci els 51 o 52 anys, i al cap d'una estona torna i diu: no, és l'any que ve. Que és el Milo Dragovich, que ja s'insinua a la segona novel·la del Sugru. Però són personatges que són molt diferents i al mateix temps tenen coses en comú. Les drogues, l'alcohol... Però el Milo seria molt més humanista, més... El Sugru no deixa de ser un hard-boiled total, vestit de cowboy.
Sí, sí.
I en canvi el Milo és un tipus d'una bona família. D'una bona família que quan parla amb algú diu: i tot això d'aquí era el jardí de casa meva.
Sí.
Constantment es troba a gent que havien conegut el seu pare o veu caminar algú amb l'abric del seu pare. I bueno, com a personatge inclús trobo que és més atractiu que el Sucru.
El Sucru, sí. Benoit?
Oui, c'est intéressant le rapport avec ces deux personnages. Fondamentalement, je pense, moi, qu'il s'agit du même personnage. C'est-à-dire toujours un peu James Cromley sous des versions que lui-même a essayé de théoriser ou d'opposer, mais je pense qu'ils ne sont pas si opposés que ça. D'abord parce que tous les deux racontent leurs histoires, donc on les perçoit avant tout comme des narrateurs, avant même que ce soit des personnages avec chacun sa biographie, puisqu'ils racontent leur histoire. Et on peut dire qu'ils racontent exactement de la même façon leurs histoires. C'est-à-dire que le style des romans racontés par Sugru est exactement le même que le style des romans racontés par Milo Dragovic. Ils utilisent les mêmes mots, les mêmes images, ils ont les mêmes goûts, etc. C'est d'ailleurs frappant justement dans le roman où ils se rencontrent. Après The Mexican Tree Duck, il y en a un qui s'appelle Border Snakes, donc les serpents de la frontière, et qui est où les deux personnages se retrouvent ensemble. Justement à propos de cette affaire d'héritage pour Milo Dragovic, entre autres, et il raconte, chaque partie est racontée en alternance par un des deux détectives, et honnêtement, on voit pas on sait qui c'est, mais on ne voit pas tellement la différence dans la manière de raconter, donc on se rend compte que c'est finalement la même chose. Ce que disait Cromley, c'est que, comme vous dites, que Milo Dragovic, c'était la version bonne de lui-même, c'est-à-dire un personnage humaniste qui essaye d'aider les autres, et Sugru, c'était la version mauvaise, c'est-à-dire quelqu'un qui est animé par la violence. C'est vrai que l'histoire est un peu différente, puisqu'ils ont fait tous les deux la guerre, mais Milo Dragovic, qui est plus âgé, a fait la guerre de Corée, alors que Sugru a fait la guerre du Vietnam. C'est vrai que Sugru a une expérience plus traumatique, puisqu'il a tué cette famille de Vietnamiens, donc il en est resté plus marqué. C'est vrai que Milo Dragovic a été marié 5 fois et Sugru n'a jamais été marié jusqu'à Border Snakes où il se marie. Mais tout ça, je pense que c'est des habillages biographiques qui finalement ne touchent pas au cœur du personnage et qu'en réalité, c'est profondément toujours lui. C'est aussi d'ailleurs quelque chose qui le rattache à cette grande tradition du roman de détective privé américain, c'est que la plupart des grands romans de détectives privés américains, ils sont racontés à la première personne, chez Chandler, chez Ross MacDonald, à part bien sûr quelques exemples célèbres comme Le Faucon Maltais de Hammett, mais les premiers Hammett, ils sont aussi à la première personne, et je crois que ce qui compte beaucoup chez tous ces personnages, c'est l'affirmation d'une langue vernaculaire, populaire, confrontationnelle, qui s'oppose aux gens et qui est une langue qui décape la réalité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on trouve à égalité chez Sugru et chez Milo Dragovic. Donc, à mon avis, ce sont des avatars de l'auteur, en réalité, qui sont profondément identiques.
Sí, és evident que hi ha un univers paral·lel i, en aquest sentit, els dos detectius formen part d'un mateix... d'una mateixa ploma, no? En diferents estils, però són el mateix personatge. Se'ns acaba el temps. Una darrera pregunta. Crida l'atenció, almenys des d'un punt de vista de lector, que no se n'hagi fet cap adaptació cinematogràfica d'aquesta novel·la. És una mentida que existint els Coen i existint Crumley, no? Les coses no... De vegades és com una parella que s'atrau i dius, què fas, no? Ens n'hauríem d'anar al llit, està claríssim. Però no és el cas, no? Només amb el primer capítol ja tens pel·lícula i no se n'ha fet cap, no? Potser per acabar aquest debat, aportació, que em diguéssiu una mica, com recomanaríeu l'últim petó autèntic, no? És a dir, què és el que us ha agradat més d'aquesta novel·la o que d'alguna manera transmetre a la gent per què ha de llegir aquesta novel·la, no? És a dir, perquè d'alguna manera n'hem estat parlant, però bueno, que m'agradaria que intentéssiu treure diferents temes d'aquesta novel·la, no? Hem parlat de road movie, no sé si hem citat la road movie, hem citat l'absurd, l'humor, les drogues, els personatges pertorbats, però cadascú m'agradaria que fes una petita aportació de què us trobeu en aquesta novel·la que us entusiasmi tant, no? Perquè si som aquí és perquè és una novel·la que ens ha agradat molt, no? I per tant, transmetre el gust per una lectura com aquesta i redescobrir Cumbly, que és la finalitat de la xerrada d'avui. Aleshores, si cada un, a veure, pot aportar una... tu com a traductora quina és la sensació que et va quedar al final, què és el que t'agrada de Cumbly i vosaltres com a especialistes, evidentment. No?
A mi m'agrada la manera com treballa el llenguatge. M'agrada la intriga, la construcció de la història, que es va mantenir la intriga doncs, tot el llarg, i m'agrada com va combinant aquests diàlegs que dèieu que són així més ràpids, amb llenguatge col·loquial i tal, i com fa unes descripcions que són com sensorials, no? Que descriu l'ambient, les olors fins i tot, fa unes comparacions molt boniques i són molt poètiques, també.
És un poeta,
claríssimament. Sí. I alhora, doncs, això, hi ha un ritme trepidant. I també m'agraden les figures de les dones, no? Que són... Totes són molt fortes i també tenen cops amagats, no? Totes tenen alguna part al darrere que no és la que es veu al primer moment.
Totalment.
Ho trobo molt interessant.
I la veritat és que tinc una gran enveja per la gent que no ha llegit aquest llibre.
Que no l'ha llegit perquè sí, l'ha de començar a llegir ara mateix.
Perquè ara el podran descobrir. De totes maneres, ara que fa un parell de mesos el vaig tornar a llegir i em va tornar a agradar moltíssim. Sí. Una mica una novel·la que... Això que és una mica el reflexe de la contracultura de finals dels 60.
El hippisme. Tot.
El hippisme i la crítica dels hippies. És això, és el sexe abans de la sida, és el final de l'època demòcrata abans que arribin els republicans. És un moment dolç i al mateix temps és una novel·la d'extrema violència... que passen moltíssimes coses. És una novel·la d'aquelles, no sé quantes pàgines té, però poques novel·les amb aquest espai de pàgines et donen tanta acció i passen tantes coses i surten personatges tan rics.
Sí, sí.
Tants i tan rics.
I tan rics.
I es belluguen tant i fan tantes coses. És aquestes novel·les que quan acabes... una experiència
física. Jo espero que ho senti algun editor que vulgui reeditar la traducció.
Tant de bo, en català també.
Tant de bo. Estaré
bé. Benoît.
Moi, je pense que tout ce qui a été dit est vrai, donc il faut que je trouve d'autres raisons. D'un point de vue historique, je me placerai peut-être pour dire que c'est, à mon avis, le dernier grand roman de détective privé américain qu'il ferme un cycle qui a commencé avec Dashiell Hammett et qui est continuer avec Chandler et Ross MacDonald, je crois qu'il met en scène la fin du détective, c'est-à-dire la perte de l'innocence, c'est-à-dire aussi que c'est le dernier artisan qui travaille encore dans un monde où il dit à un moment, la détection aujourd'hui, ce n'est plus que des questions de sécurité industrielle et de gadgets électroniques, ce n'est plus du tout une aventure individuelle. Donc il met en scène la fin et les limites de cette aventure individuelle qui avait commencé 60 ans plus tôt, et je crois que depuis... ce roman qui a été écrit en 1978, fondamentalement, aucun grand polar qui a été écrit depuis n'est un roman de détective privé. Aujourd'hui, c'est plus un genre pertinent, c'est un genre qui a perdu sa pertinence par rapport à la complexité du monde moderne. C'est difficile aujourd'hui de faire croire au public qu'on peut résoudre des problèmes avec un détective privé. Je crois que ça, il le montre très bien aussi.
Molt bé. Doncs molt interessant les tres aportacions. Jo sí, voldria donar les gràcies de nou als tres perquè crec que hem aportat un coneixement del James Cumbly, ens hem apropat a un text que és de capçalera per tot lector de novel·la negra, una novel·la de l'any 78 que realment és tot un viatge, tot un viatge que comença però no saps com acaba, no desvetllarem res, a redescobrir i a veure si es publica tota l'obra sencera que aquestes trobades serveixin per seguir publicant l'obra de James Cumbly, a veure si algun dia ens assemblem una miqueta als francesos i anem publicant tota l'obra de Cumbly, donar les gràcies evidentment al comissari Carlos Tanón per l'oportunitat i tancar aquest petit debat. M'agradaria citar simplement segurament algun dels grans estudiosos del polar francès, que es diu François Guérif, que en un llibre d'entrevistes parlava del James Cumbly i m'agradaria tancar amb aquestes paraules, que diu: per mi el més bell en James Cumbly, més enllà de la intriga policíaca, és el sentiment del temps que passa, de l'enyorança de la joventut, una reflexió sobre la bellesa, sobre allò ineludible de la mort. Penso que no hi ha millor manera de definir aquesta novel·la. Així que moltes gràcies a tots tres. Gràcies.